crise océanique quand des animaux et des humains se rencontrent. C'est aux éditions du Seuil. Voilà le programme, Aurélie. Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de France Culture. Il est 18h. Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une large part de ce journal sera évidemment consacrée aux frappes israéliennes sur l'Iran, frappes qui ont continué aujourd'hui sur de nombreuses cibles militaires et nucléaires notamment. Le pouvoir iranien promet ce soir l'enfer à Israël. En représailles, les mots du pouvoir iranien bien sûr, et les mots des Iraniens, ce ne sont pas exactement les mêmes, vous l'entendrez. Nous reviendrons également sur les frappes de la nuit dernière, comment Israël a lancé son opération Lion Rising, les détails avec Thibault Lefebvre. Instabilité régionale et inquiétude internationale. Toutes les mesures seront prises pour protéger les Français, indique Emmanuel Macron. La France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité, dit le chef de l'État. Dans ce contexte, le prix du dollar monte. Peut-il continuer à grimper? Réponse dans ce journal. Et puis nous irons également à Nice rejoindre Véronique Rébérotte pour la fin du sommet de l'ONU sur les océans. Un document de 12 pages synthétise les accords qui ont été trouvés. Ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans une petite heure et en urgence. Depuis ce matin, le monde retient son souffle et observe ce qui se passe en Iran. Les frappes israéliennes sur les installations nucléaires et militaires iraniennes se sont poursuivies dans la journée. Elles pourraient durer plusieurs jours. Au total, des dizaines de cibles et l'armée israélienne a également visé le pouvoir iranien, notamment le chef d'état-major de l'armée et celui des gardiens de la révolution qui ont été tués. L'Iran a dans un premier temps envoyé des dizaines de drones. Ce matin, en représailles, il promet ce soir donc les portes de l'enfer à Israël, je cite. Rhétorique classique en attendant de nouvelles représailles, Marie-Pierre Véraud.
L'Iran promet donc de réagir par la voix de son président Pezeshkian. Il annonce une réponse puissante et légitime.
Cet acte brutal, contraire à toutes les obligations internationales, confirme la nature criminelle du régime sioniste illégitime qui a bâti son existence sur l'occupation, l'agression et l'infanticide. Bien sûr, la nation iranienne et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime. Et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi son acte insensé.
Alors, légitime, certes, elle l'est au regard du droit international. L'Iran a été attaqué, il a le droit de se défendre, mais puissante, cela reste à voir, parce que ce sont des attaques à la fois ciblées, mais également massives, qui ont visé les sites militaires iraniens, les rampes de lancement de missiles, les sites nucléaires, notamment la centrale d'enrichissement d'uranium de Natanz, à deux reprises, et qui ont décapité à la fois l'état-major et le corps des gardiens de la Révolution. Alors, certes, les têtes de ces deux institutions fidèles au guide Ali Khamenei, l'armée et les gardiens de la Révolution ont promptement été remplacés, mais le plus proche conseiller du guide suprême, qui avait pris d'ailleurs la tête du programme nucléaire récemment, a également été frappé, et 6 ingénieurs scientifiques, architectes de ce programme nucléaire, ont également été éliminés. Et ces attaques, elles ont ciblé les plus hauts dignitaires du régime, jusque dans leur résidence, au cœur de la nuit, dans des quartiers qu'au sud de Téhéran, la puissance des frappes a terrorisé la population de la capitale. Les autorités font état de plusieurs morts, 8 notamment à Tabriz, et d'une centaine de blessés.
Marie-Pierre Véraud et les médias locaux font savoir que de nouvelles explosions sont entendues à Téhéran et ses environs ce soir. On parlait de Natanz tout à l'heure. À l'instant, l'AIEA fait état de niveau de radiation inchangé à l'extérieur du site après la nouvelle attaque israélienne. L'opération est très spectaculaire. Et meurtrière donc. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir à tous.
On en sait ce soir un peu plus sur la façon dont s'est préparé et déroulé ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle l'opération Lion Rising.
Oui, ce qu'on le sait, c'est que c'est une attaque hybride au sol et dans les airs coordonnée de Tel Aviv à environ 1500 km des cibles. Alors le premier pilier de cette opération, c'est l'aviation. 200 chasseurs, dont des engins furtifs américains de type F-35 tactiques capables de passer sous les radars ont été mobilisées. C'est plus de la moitié de la flotte israélienne, ce qui est sans doute inédit dans l'histoire des batailles aériennes. Et puis le deuxième pilier, c'est le Mossad, les services secrets extérieurs israéliens. Des agents infiltrés ont mené des missions de sabotage sur des batteries de missiles anti-aériens, notamment pour permettre aux avions de ne pas être repérés et abattus. C'est une réussite stratégique totale. Tous les engins sont passés entre les mailles du filet et ont pu larguer leurs bombes. Et puis c'est peut-être l'opération la plus aventureuse, ou en tout cas la plus originale, de l'attaque de la nuit dernière. Le Mossad a introduit clandestinement des drones sur le territoire iranien. Ses agents les ont stockés pendant plusieurs jours, puis les ont déclenchés dans la nuit pour détruire notamment des lanceurs de missiles sur une base militaire à proximité de Téhéran. Ce dispositif rappelle l'opération Toile d'araignée déclenchée, souvenez-vous, par les Ukrainiens en Russie il y a une douzaine de jours, quand des drones cachés dans des containers en bois disposés sur des camions ont décollé du territoire russe pour détruire des avions au sol.
Merci Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Ce soir, Benjamin Netanyahou indique qu'Israël s'attend à être exposé à plusieurs vagues d'attaques iraniennes. L'Iran qui prépare donc sa riposte. Comment la population iranienne vit-elle tout cela? Les opposants au régime soutiennent-ils l'attaque israélienne? Témoignage depuis l'Iran, recueilli par téléphone par Noé Pignède. Leur voix et leur nom ont été modifiés pour les protéger.
Dans le secret des foyers iraniens, les opposants à la République islamique se réjouissent de l'opération israélienne. Cette nuit, Omid a été réveillé par les frappes.
La situation n'est pas agréable, mais les gens ont moins peur d'Israël que du régime. Tout le monde déteste le gouvernement et les commandants des gardiens de la révolution. Donc, tant qu'ils ne ciblent qu'eux, tout le monde est content.
Et comme lui, Kamran, 36 ans, qui se définit comme un résistant, espère qu'Israël aidera les Iraniens à faire vaciller le régime, leur ennemi commun.
Je ne crois pas que les Israéliens et Netanyahou se préoccupent vraiment du sort des Iraniens, mais ils y ont un intérêt stratégique. C'est pour ça que, pour l'instant, ils limitent les dommages collatéraux.
Mais certains s'inquiètent de la rhétorique de Benjamin Netanyahou qui promet de libérer les Iraniens de la tyrannie, comme il promettait de libérer les Gazaouis du Hamas. Daria nous envoie ce message de Téhéran.
La liberté ne naît pas des bombes, de la violence, ni par un état criminel qui ne cesse pas de tuer des enfants et des femmes innocents. L'Iran a toujours été libéré par ses propres enfants. Jamais on réclame la liberté par des mains tachées de sang des Israéliens.
Les Iraniens attendent désormais de voir la puissance de la riposte annoncée par la République islamique, riposte qui pourrait faire basculer toute la région dans une nouvelle spirale de violence.
Noé Pignède, de son côté, silence ce soir des États-Unis. Côté américain, Donald Trump réunit en ce moment son Conseil de sécurité nationale. Sébastien Paour, quelle est la position des Américains vis-à-vis d'Israël ce soir?
En tout état de cause, les États-Unis seront derrière Israël, comme Biden l'a été en octobre dernier quand Téhéran et ses proxys ont tiré des dizaines de drones vers le sol israélien. Trump doit parler à Netanyahou aujourd'hui, d'après la chaîne conservatrice Fox News, et les États-Unis se préparent déjà à la riposte iranienne. Plusieurs bâtiments de guerre américains se rapprochent des côtes israéliennes en Méditerranée. Une autre réunion militaire, celle-là, a eu lieu ce matin dans ce qu'on appelle le tank, le bunker de commandement situé sous le Pentagone, à côté de Washington, réunion des hauts gradés du département de la défense, parce que l'Iran pourrait aussi viser des cibles américaines dans la région. Donc l'Amérique va rester aux côtés d'Israël. D'ailleurs, d'après le site Axios, généralement bien informé, en particulier sur Israël, l'attaque de cette nuit aurait été coordonnée avec Washington. Trump et son entourage faisaient seulement semblant de s'opposer à une attaque par Israël, mais en privé, ils ont clairement donné leur feu vert. Axios va même plus loin. Le site explique que l'objectif de cette opposition publique des États-Unis à des frappes israéliennes était de faire croire à Téhéran qu'il n'y avait rien en préparation pour être sûr que les Iraniens visés par Israël ne se déplaceraient pas et que les cibles pourraient bien être atteintes. Tout cela, évidemment, n'est pas confirmé de sources américaines. Au contraire, la Maison-Blanche prend ses distances avec Israël depuis hier soir, dans ses déclarations publiques comme dans ses messages en direct avec ses alliés.
Sébastien Paour, on apprend ce soir, là, on vient de l'apprendre, que la conférence de haut niveau sur une résolution pacifique de la question palestinienne, cette conférence qui était prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU à New York, eh bien, elle a été reportée. Cette conférence devait être coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. L'Iran est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de pétrole. La conséquence directe de cette escalade, c'est que les coûts cours du pétrole ont grimpé depuis hier de 65 dollars le baril pour le cours du Brent. On est autour de 75 dollars. Une augmentation forte, mais encore gérable si elle reste à ce niveau-là, selon Francis Perrin, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il est spécialiste du marché du pétrole.
Il y a 3 ans en arrière, le début de la guerre en Ukraine numéro 2, au début du mois de mars, soit à peine 2 semaines après le début de cette nouvelle agression russe, le prix du Brent, comme brut de référence, a frôlé les 140 dollars par baril. Là, au moment où nous parlons, nous sommes à environ 75 dollars pour les prix du Brent, avec une forte hausse de l'ordre de 10%, ce qui est sur un jour et quelques heures est considérable, mais on est quand même très loin des niveaux très élevés que nous avions en 2022, guerre en Ukraine, et du niveau du record historique, juillet 2008, 147 dollars par baril. Si on restait à environ 75 dollars par baril, ce serait, supportable par les importateurs et les consommateurs. Leur crainte, c'est que ça puisse monter plus haut, soit parce qu'il y aurait des représailles iraniennes contre Israël qui entraîneraient des représailles israéliennes contre l'Iran, soit parce que l'Iran ciblerait le pétrole au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Pour l'instant, la hausse est très forte, très brutale, mais on peut, économiquement, vivre avec un pétrole Brent à 75 dollars par baril.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, il était interrogé par Marie Viennoux. Le sommet de l'ONU sur les océans est en train de s'achever à Nice. Tout au long de la semaine, 64 chefs d'État et de gouvernement seront passés à la conférence. Conférence qui aurait été la plus importante en termes de participation. En ce qui concerne les résultats, un document et des engagements sur une douzaine de pages. Le principal sujet étant la future ratification du traité sur la haute mer, acté par une cinquantaine de pays et par une douzaine d'autres pour 2026. Bonsoir Véronique Rébérotte.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Nice. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'une impulsion a bel et bien été donnée, notamment par la France, pour la protection des océans. Mais derrière, il faudra du concret.
Exactement. D'abord, la cérémonie de clôture n'est pas tout à fait terminée. L'adoption des engagements de Nice pour l'océan sera saluée dans quelques minutes par les cornes de brume des bateaux à quai dans le port de Nice. Mais il faut encore attendre un peu pour entériner quoi? Eh bien d'abord, et vous l'avez dit, c'était la priorité de la France. Il y a désormais assez d'États prêts à ratifier le traité sur la haute mer. Le quota pour son entrée en vigueur n'a pas tout à fait été atteint à Nice, mais la France n'a aucun doute sur le fait que ce sera fait avant fin septembre. Un traité qui va permettre donc de protéger deux tiers des océans, des eaux internationales. Pour Romain Troublé, le directeur de la fondation Tara Océan, c'est un très beau résultat avec à la clé l'organisation de la première COP spéciale océan.
Moi j'ai bon espoir qu'avant la Assemblée générale de l'ONU, qui chaque année a lieu en septembre à New York, on puisse avoir le traité ratifié. Et ça veut dire que la première COP aura lieu un an plus tard. Donc tout ça va s'accélérer. Et c'est franchement une victoire. Nous, on a suivi ce traité pendant 12 ans, tous les 6 mois, pour négocier. Et de voir ce traité aboutir aussi vite, c'est franchement une victoire.
Mais tout reste à faire. Quels espaces protégés? Précisément qui pour contrôler? Avec quels moyens financiers? On ne rentrera dans le vif du sujet bien que l'année prochaine. Autre gros sujet de discussion ici, l'exploitation des grands fonds marins et leurs minerais. Les abysses ne sont pas à vendre, avait dit Emmanuel Macron en début de semaine. Les grands fonds ont obtenu à Nice un répit. L'extraction des métaux rares au fond de l'océan serait un désastre, on le sait, environnemental. Il y a désormais assez d'États, une coalition de 37 pays prêts à bloquer l'adoption d'un code minier des profondeurs marines. Écoutez Olivier Poivre d'Arvor, c'est l'ambassadeur des pôles et des océans pour la France.
Le code minier était prêt à être signé à la mi-juillet. Et là, la réaffirmation par maintenant 37 pays qu'ils voulaient un moratoire fait que le code minier ne sera pas signé et que donc on ne pourra pas commencer légalement l'exploitation des grands fonds marins. Alors je pense que les États-Unis ne feront pas ce qu'ils disent parce qu'ils perdraient beaucoup d'argent. Mais nous avons arrêté en tout cas. Mais le combat n'est pas terminé. Hein. Le combat n'est pas terminé et nous, notre objectif c'est de pouvoir avoir au moins la moitié des pays qui s'opposent à une exploitation immédiate. Mais enfin bon, déjà avoir une pause de précaution de plusieurs années, c'est quand même une grande victoire.
On note aussi de 10 bits avancées contre la pêche illégale. Plusieurs États aussi, surtout la Grande-Bretagne, ont annoncé de nouvelles aires marines protégées. Annonce modeste d'un côté français et critiquée par les ONG qui parlent d'ambivalence de la France. En tout cas, cette conférence a montré que le multilatéralisme n'était pas mort. Il faut maintenant que les engagements de Nice, vous l'avez dit, se traduisent en actes.
Merci Véronique Ribérot, en direct de Nice avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. L'une des boîtes noires du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasée hier après son décollage d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde, eh bien, l'une des boîtes noires a donc été retrouvée. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui s'est passé lors de ce crash qui a causé la mort d'au moins 265 personnes. Et puis, effet collatéral de cet accident meurtrier, le patron de Boeing annule sa venue au salon de l'aéronautique du Bourget la semaine prochaine, officiellement pour se concentrer sur l'enquête et la compagnie Air India, son client. Évidemment, cette catastrophe risque aussi de jeter une ombre au programme de l'avionneur américain, même si l'on ne connaît pas encore la cause de l'accident. Bonsoir Valentin Grillet.
Bonsoir Nicolas.
La compagnie américaine devrait tout de même être présente au Bourget, mais ne prendra pas la parole quant à ce nouvel accident.
Non, car Kelly Hotberg s'en tient aux déclarations usuelles, rappelant que la sécurité est un pilier de la politique de Boeing, que ses experts techniques se tiennent prêts à porter assistance aux enquêteurs et qu'il ne faut pas spéculer sur l'accident. Mais ce retrait du Bourget reste une mauvaise nouvelle, au moins d'un point de vue médiatique, rappelle Gérard Felzer, il est le président d'Aviation Sans Frontières.
Le Bourget, c'est le salon le plus important au monde. Ça tombe très très mal pour eux. L'enquête est en cours. Il y a des tas de micros qui vont se pointer en disant alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne vont pas pouvoir y répondre. Donc, dans ces cas-là, on fait profil bas. Ce qui ne veut pas dire une baisse des commandes, hein, c'est une question d'image.
Car Boeing maintient néanmoins ses stands d'exposition, ce sont seulement ses dirigeants qui s'absentent. Et de façon similaire, le motoriste de l'avion, GE Aerospace, a aussi annulé des conférences prévues avant le salon. En vérité, Boeing ne connaîtra peut-être aucun retrait de commandes, car la demande est spectaculaire et que son seul concurrent est Airbus, dont les carnets de commandes débordent déjà. Le 737 MAX, pourtant incriminé dans les deux crashs de Lion Air en 2018 et Ethiopian Airlines en 2019, fait aujourd'hui par exemple l'objet de 4400 commandes en attente. Seule crainte de l'avionneur, que les autorités américaines, notamment le puissant régulateur de l'aviation civile, la FAA, ne mettent le nez dans la carlingue du Dreamliner. Elle pourrait en ralentir la production, le temps de faire le jour sur les failles techniques de ce qui restait jusqu'ici le fleuron de Boeing.
Merci Valentin Grillet. Arrêtons-nous un instant sur un angle mort d'un débat aujourd'hui très prégnant dans notre société, celui sur les écrans et leur impact sur les plus jeunes. L'addiction aux écrans, de cela on en connaît de plus en plus et de plus en plus souvent les effets négatifs de l'addiction, beaucoup moins concernant la stratégie de l'industrie numérique. Bonsoir Marie Dupin.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur cette stratégie pour faire rentrer à tout prix les écrans dans les écoles.
Oui, elle s'appelle le Mascotte, Script & Go ou Manzalab. Depuis des années, ces startups bénéficient de millions d'euros de subventions publiques pour développer des applications ou des logiciels pour l'école, parmi elles Didas. Qu'en 2015, l'entreprise décroche un appel d'offres pour créer une plateforme pour les enseignants. Et pour ça, l'État a déboursé près d'1 million d'euros, mais la plateforme n'a jamais été mise à disposition de l'éducation nationale. L'argent a surtout permis de développer des formations en ligne, vendue à des entreprises privées, comme on l'entend dans ce spot promotionnel.
Avec Didask et son IA pédagogique, formez vraiment vos équipes. Conçue par nos chercheurs en sciences cognitives, notre IA génère en quelques secondes un parcours e-learning complet à partir de votre contenu brut.
Aucune plateforme donc pour l'éducation nationale et pourtant la start-up a de nouveau remporté avec d'autres acteurs un nouvel appel d'offres publiques en 2023, cette fois de 7 millions d'euros, des subventions publiques qui profitent à des entreprises de la tech, mais aussi à des laboratoires universitaires censés garantir l'efficacité des outils numériques, des laboratoires en fait eux-mêmes proches de géants de la tech comme Facebook et Google.
Et puis Marie, il y a aussi Microsoft.
Oui, ça on le découvre dans les documents techniques d'un autre projet visant à créer une application pour aider les élèves à écrire, Caligo, un projet officiellement porté par une petite entreprise bretonne qui a en réalité pour partenaire Microsoft. Pour développer cette application, l'État au total a dépensé plus de 6 millions d'euros et 1000 élèves de maternelle ont été testés en présence d'ingénieurs dans des salles mises à disposition par Microsoft pour faire des exercices, comme l'explique Benoît Janin à l'origine du projet.
Dans ces exercices, on leur proposait de tracer des lettres. En même temps, ça permettait de prendre des empreintes pour aussi améliorer les moteurs d'intelligence. À partir de ces travaux, on a continué à améliorer les moteurs d'intelligence artificielle.
Et dans les documents de l'appel à projet, on découvre aussi que les tests menés sur les enfants dans la salle Microsoft ne visaient pas seulement à créer une application pour aider les élèves, mais aussi à comprendre, je cite, comment capter leur attention et comment améliorer les outils industriels. Écoutez un extrait de ces documents que nous avons fait lire.
La diffusion de la solution doit générer progressivement un taux d'équipement des écoles en tablettes. Les années d'expérimentation doivent également permettre aux constructeurs de développer ou d'affiner leur gamme de produits dédiés à l'éducation. Elles permettront également de tester de nouveaux produits répondant aux exigences de l'éducation nationale. Tablettes robustes, coque de protection, stylet ergonomique, accessoires stylés notamment pour les exercices en classe de maternelle, chariots de rangement et de chargement.
Et finalement, l'application Caligo est aujourd'hui surtout commercialisée à l'étranger. Microsoft confirme avoir été partenaire technologique, mais assure que les données ont été captées uniquement par la start-up. Des géants de la tech derrière de plus petites entreprises pour faire entrer les tablettes dans les écoles. Cette stratégie ne surprend pas Bram Vranken. Il enquête pour l'ONG CEO sur le lobbying des acteurs de la big tech à Bruxelles.
Ce secteur déploie les formes les plus agressives et les plus manipulatrices de lobbying. Nous avons montré qu'il passe par des fonds d'investissement derrière lesquels on trouve la big tech. Et souvent, pour avoir une bonne image, ces fonds représentent de plus petites entreprises, des start-up. Mais les messages que portent ces start-up, ce sont ceux des lobbies de la big tech, comme Google ou Meta.
De son côté, le ministère de l'Éducation nationale rappelle qu'en maternelle, les équipements numériques individuels sont interdits et qu'en primaire, ils ne sont ni nécessaires ni souhaitables.
Merci Marie Dupin. Votre enquête complète est à retrouver sur radiofrance.fr. Un mot du temps demain, du sud-ouest au nord. Après les orages de la nuit, le ciel va rester très nuageux avec quelques averses. Les températures maximales de 20 à 25 degrés sur le nord-ouest, de 24 à 28 sur le sud-ouest, voire 30 à 35 degrés sur l'Est. Ce journal est désormais terminé. On retrouve tout de suite, avec un peu de retard, Quentin Lafay pour Question du soir.
Merci beaucoup Nicolas Ballu, à vous et à la rédaction de France Culture pour ce journal. Et bienvenue à toutes et à tous dans Question du soir. 1h30 de débats, d'analyses, de rencontres et de découvertes. Et à 19h dans l'actualité, vue par les idées et la recherche, alors que la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan s'est terminée à Nice. Une question, quel lien les humains peuvent-ils nouer avec les animaux marins? On en parlera avec l'anthropologue Fabien Clouette. Il fait paraître cet ouvrage intitulé « Des vies océaniques quand les animaux et les humains se rencontrent ». C'est aux éditions du Seuil. Mais pour leur place, au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
Une opération éclair faite de 200 avions de chasse et visant plus d'une centaine de cibles. La nuit dernière, Israël a mené une attaque aérienne inédite sur des sites militaires et nucléaires iraniens, tuant dans le même temps des membres clés de la chaîne de commandement militaire, ainsi que des civils et des enfants iraniens notamment. Mais que visait vraiment Israël dans cette offensive baptisée Rising Lion, le lion qui se lève? L'Iran peut-il répliquer? Assiste-t-on aux prémices d'un face-à-face qui pourrait embraser la région? Pour tenter de répondre à ces vastes questions, trois invités ce soir. Antoine Basbous, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes politologue associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Face à vous, Bernard Ourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Et Rina Bassiste, bonsoir.
Bonsoir, Quentin.
Vous êtes journaliste israélienne, vous travaillez pour la radio publique israélienne Kan et vous êtes rédactrice dans le journal américain Al Monitor. Merci beaucoup à tous les trois d'être présent ce soir dans Question du soir.
L'État juif refuse d'être la victime d'un holocauste nucléaire commis par le régime iranien. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé le cœur du programme nucléaire militaire de l'Iran. Nous avons ciblé la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir, et d'agir maintenant.
Le régime sioniste doit s'attendre à une punition sévère. Par Dieu le Tout-Puissant et la main puissante des forces armées d'Iran, cela ne restera pas impuni.
Nous nous trouvons maintenant à un tournant décisif. Si nous le manquons, nous n'aurons aucun moyen d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires qui mettront en péril notre existence même.
Comment qualifiez-vous, Bernard Rourcade, les attaques aériennes de la nuit dernière ? Est-ce qu'elles sont une riposte aux attaques iraniennes de l'automne dernier ou bien le fruit d'une stratégie de long terme ? On rappelle que le Premier ministre israélien menace le régime iranien d'une attaque contre son programme nucléaire depuis de nombreuses années désormais.
Tout à fait. Tout le monde disait que Netanyahou a avec l'Iran une relation conflictuelle viscérale. Et on l'a vu, on se souvient des interventions de Netanyahou à l'ONU montrant le niveau du nucléaire iranien et qu'au-delà de cette limite, Israël devrait prendre des décisions si personne d'autre ne prenait des décisions. Israël aussi a été très opposé à l'accord sur le nucléaire de 2015, où l'Iran avait accepté finalement de mettre un terme à son programme militaire nucléaire sous contrôle de l'AIEA, jusqu'à ce que Donald Trump casse cet accord en 2018 et que l'Iran disant l'accord n'est pas respecté, donc moi je ne le respecte pas non plus.
L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Qui contrôle l'Iran, qui est un pays très bien contrôlé, dont on sait exactement ce qui se passe en Iran. On peut toujours supposer qu'il y a des programmes cachés, mais on sait à peu près ce qui s'y passe. Donc là, il ne s'agit pas non plus d'une réaction à une attaque iranienne liée au Hezbollah, liée à la guerre de Gaza, etc. C'est autre chose. Aujourd'hui, nous avons une attaque qui est politique, qui est globale. Et les analystes à Israël disent que c'est un programme tout en un, une attaque générale, mais qui ne touche pas le nucléaire. On en reparlera, je pense. Le nucléaire n'a pas été touché, de mon point de vue, parce que Trump a dit « n'y touchez pas, touchez pas au pétrole non plus ». Ça a touché des cadres du régime. Des notabilités très importantes, gardien de la Révolution, commandant-chef des forces armées, des ingénieurs du nucléaire. Et surtout, ça a frappé des civils, puisque pour la première fois, les attaques ont visé des appartements. Quelqu'un, un général que vous ignoriez, habitait au sixième étage de votre appartement et il a été tué cette nuit. Et donc, il y a des dégâts collatéraux. Donc, c'est une attaque globale. Mais je crois que tous ces éléments militaires sont intéressants. On y reviendra dans la discussion. Le problème était politique. Israël est face à Gaza à une crise extrêmement grave. Projet de reconnaissance de l'État de Palestine dans quelques jours à New York, la conférence est annulée. Et discussion entre Américains et Iraniens sur le nucléaire. L'Israélien ne voulait pas de la reconnaissance de Palestine, ne voulait pas d'un accord sur le nucléaire. Ils ont réussi hier soir à faire capoter les deux projets.
Vous êtes d'accord avec ça, Rina Bassiste? Le véritable projet, c'était de faire capoter la reconnaissance d'un État palestinien. C'était au fond, si je l'emploie avec mes termes-là, détourner le regard de la communauté internationale?
Je pense pas, parce que je pense, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour le président Macron, je pense que son initiative n'était pas si importante aux yeux des Israéliens pour justement prendre une telle décision de frapper le programme nucléaire iranien. C'est quand même un objectif qui est discuté en Israël depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mm-hmm. Donc, je pense que les deux choses ne sont pas liées. C'est lié à quoi ? Donc, d'abord, et c'était bien mentionné, on est en pleine discussion entre les Américains et les Iraniens sur un possible nouveau accord sur le nucléaire. Le président américain n'a pas caché, même avant d'être président, pendant sa campagne présidentielle, il a bien expliqué qu'il veut arriver à un accord. Ces derniers jours, on a vu ces discussions avancer assez rapidement. Il y a manifestement une crainte israélienne que ça va aboutir à un accord que, en tout cas, le premier ministre israélien, à tort ou à raison, estime un accord qui est dangereux pour Israël.
Je rappelle là, d'un mot, pardonnez-moi, je vous coupe, que ces négociations ont été relancées en mars dernier par Donald Trump et que le 15 juin prochain, à Oman, des émissaires des deux pays, Iran et Israël, devaient se retrouver pour avancer sur ce dossier.
Pour l'instant, les Iraniens, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir, mais on peut s'imaginer que quand même, il y aura un certain moment, peut-être plus lointain, il y aura quand même des rencontres. Donc, il y avait d'un côté cette avancée trop rapide au goût israélien vers un accord peut-être pas assez contraignant. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, et ça, d'abord, il y avait cet rapport sur l'enrichissement de l'uranium et le non-compliance, si j'utilise le terme américain de l'Iran, des termes que l'Iran aurait dû accepter. Et aussi, il y a une estimation israélienne, et ça, on n'a pas les détails, on a juste des indications du côté des experts israéliens qui disent qu'il y a quand même un changement dans la politique iranienne. Et pourquoi je dis un changement ? Parce que pour qu'un État arrive à devenir un État nucléaire, d'avoir des capacités nucléaires, il y a trois éléments. Il y a d'abord l'enrichissement de l'uranium, et ça, il y a les rapports, ce n'est pas Israël qui dit qu'il y a une non-compliance du côté,
iranien.
Du côté iranien. Et il faut avoir une façon pour faire tomber cette bombe. Donc là, c'est soit par avion, comme on a vu à Hiroshima, mais bon, on sait que les Iraniens, leur capacité, leurs avions, ils sont très, très anciens, ils ne sont pas capables de les faire. Donc forcément, ça sera avec, si jamais ils décident de se lancer dans cette aventure, ça sera avec des missiles balistiques. Et on sait, il y avait la démonstration en avril, en octobre, ils ont ces missiles balistiques qui arrivent jusqu'à Israël. Et il y a le dernier élément. Et le dernier élément, c'est en fait la technologie pour avoir une détonation, pour fabriquer une bombe. Jusqu'à maintenant, ça fait des années qu'il y a d'abord une certaine fatwa, une directive de Khamenei qu'on ne va pas passer cette seuil. Et aussi, il n'y avait pas de preuves jusqu'à maintenant qu'il y avait une décision iranienne prise pour justement commencer à développer cette technologie. Là, les Israéliens disent qu'il y a des indications comme si la politique iranienne a changé, ce qui a déclenché peut-être cette décision de Netanyahou de frapper.
Votre point de vue, Antoine Baspous, ce qui est à l'origine, donc si on écoute Rina Bassis, de cette opération la nuit dernière, c'est cette menace existentielle pour Israël qui s'approche. Je parle évidemment de la menace nucléaire.
Ma lecture n'est pas forcément celle-ci. Moi, je vois que le cerveau des attaques du 7 octobre 2023 à partir de Gaza, c'était le général Soleimani, le patron de la force Al-Quds des Pasdaran. Il a mis en place l'axe de la résistance, il a chargé les proxys de l'Iran, qui étaient le Hezbollah, les Houssis, les milices chiites en Irak, Assad en Syrie, d'encercler Israël, pas forcément pour le détruire, mais tout simplement pour l'amener à négocier en position de faiblesse. Donc, Israël a commencé à répliquer, a détruit le Hamas, il en reste très peu de choses, a décapité le Hezbollah, renversé Assad en Syrie, frappé assez durement les Houssis au Yémen, neutralisé les milices chiites en Irak. Et maintenant, la flamme arrive à la barbe des Mollahs en Iran. Donc, je crois que ça vient pour fermer le chapitre de cette attaque du 7 octobre pour clore ce chapitre-là. Mais je crois que cette affaire, je la qualifie de la guerre des guerres au Moyen-Orient. C'est-à-dire, ça ne sera pas une promenade de santé, même si la technologie israélienne est de très loin supérieure à celle de l'Iran. C'est incomparable. Israël vient de mener la première guerre de l'intelligence artificielle de notre époque. Et donc, on voit bien les vecteurs israéliens et les vecteurs iraniens. Donc, il n'y a pas photo entre les deux. L'Iran, ça fait trois fois la superficie de la France, 85 millions d'habitants. Israël, c'est tout petit, c'est 10 millions d'habitants. Sauf que la technologie est d'un côté et pas de l'autre. L'Iran est sous sanction depuis très longtemps. Alors, il y a deux objectifs dans cette offensive d'aujourd'hui. Décapiter le régime. Il y a au moins dans la première frappe une vingtaine de généraux qui ont été assassinés. Donc le chef des Pasdaran, c'est le numéro 2 du régime, le chef de l'armée et d'autres. Il y a également 9 scientifiques qui sont les patrons du programme nucléaire. Mmh. Quand on ajoute à cela la destruction plus ou moins avérée de Natanz, plus 4 autres sites nucléaires moins touchés, on se rend compte que l'objectif de ralentir tout au moins, si ce n'est pas détruire, le programme nucléaire est assez avancé, parce qu'un scientifique de cet acabit-là, vous ne le remplacez pas au pied levé. D'autant plus qu'Israël avait déjà frappé, éliminé le père du programme nucléaire, Fakhrizada, à côté de Téhéran, et volé l'archive nucléaire iranien à travers l'Azerbaïdjan.
Ça, c'était en 2020, l'assassinat de Fakhrizadeh, le père du programme iranien, on s'en souvient. Bernard Rocade, est-ce que vous êtes sur la même ligne? Dans le fond, cette opération va permettre de ralentir drastiquement les avancées du programme nucléaire iranien.
Alors, d'un côté, on a des faits, de l'autre côté, on a des impressions, et des suppositions, des questions. Il est clair que l'Iran, à la capacité technologique d'enrichir l'uranium à un degré militaire, c'est-à-dire de 90% dans des délais très rapides, en quantité importante. C'est une chose claire et nette. Il n'avait pas cette capacité en 2015. Le retrait d'Américains de l'accord sur le nucléaire a fait que l'Iran s'est relancé là-dedans.
On dit aujourd'hui, selon les estimations, qu'il faudrait entre un an et demi et deux ans à l'Iran pour obtenir cette bombe nucléaire, qu'elle soit en tout cas effective dans son application.
Comme disait madame tout à l'heure, il y a d'un côté l'enrichissement, et ça l'Iran sait le faire, et l'Iran a la capacité de faire 3 ou 4, 5 bombes atomiques avec l'uranium qu'il a en stock chez lui. Deuxièmement, il faut des missiles, et madame le signalait, l'Iran a des missiles. Est-ce qu'ils sont assez sophistiqués, assez gros pour pouvoir porter une ogive nucléaire, c'est autre chose. Alors, s'il faut faire la bombe atomique, qui est une chose qui n'est pas simple à faire. Autant les centrifugeuses, on les met dans un tunnel et on peut enrichir l'uranium. Un programme industriel d'étonique est plus compliqué, plus visible. Et actuellement, on dit effectivement que l'Iran aurait changé de politique, ça aurait déterminé l'Israël à attaquer. Ça fait des années que les Iraniens disent « retenez-moi ou je fais un malheur ». Ne faites pas ceci, sinon je passe à la bombe atomique. Mmh. Je fais une bombe atomique et vous savez que j'ai les compétences technologiques pour le faire. Donc, effectivement, on peut penser cela. Mais il faut voir l'Iran d'aujourd'hui. Comme le rappelait M. Mazdous à l'instant, l'Iran a été et vaincu aujourd'hui. L'Iran a perdu le Hezbollah, qui était son joyau. L'Iran a perdu Damas, a perdu les milices en Irak, a perdu les Houthis. Et donc, se retrouvent les gardiens de la révolution, qui étaient la gloire du régime, idéologiquement, économiquement, la corruption, tout ce que vous voudrez. Ils ont été battus militairement et à tout point de vue, il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, les généraux qui ont été assassinés, ce sont des has-been, ce sont des gens d'avant, qui ont fait la guerre de jadis et qui ont été battus, et qui n'ont plus du tout la même capacité. Parce que l'Iran s'est rendu compte.
Alors à quoi bon, pardonnez-moi, mais à quoi bon?
À quoi bon? Pour montrer que j'ai réussi, et je suis capable d'éliminer qui je voudrais, et successeur éventuellement de ces gens-là. L'Israël est capable, il le montre à Gaza, de faire ce qu'il veut, comme il veut, sans tenir compte d'aucune règle internationale. Et donc, l'Iran menace l'Israël, c'est pas nouveau, ça date des années 90, mais de là à passer à l'acte comme aujourd'hui à une telle dimension, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je dis que derrière le nucléaire, qui n'a pas été touché fondamentalement à Natanz, ils ont détruit, on connaît assez bien le site de Natanz, les installations de surface qui sont faciles. Le nucléaire lui-même est enterré, il n'a pas été touché. Et surtout, Fordo n'a pas été touché, Ispahan n'a pas été touché, le pétrole n'a pas été touché. Autrement dit, il y a une vision politique, et moi je m'intéresse plus à la question politique. Une fois que les Israéliens ont fait cela, so what? Qu'est-ce qu'on fait après? Quelles sont les conséquences? Et après les gardiens de révolution qui ont été tués, il y aura peut-être pire après.
Je vais vous faire réagir les uns les autres. Je voudrais d'abord qu'on revienne quelques mois en arrière, hein, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre dernier. Israël attaquait déjà l'Iran, mais tentait plutôt de limiter la casse, si je puis dire, puisque quelques semaines auparavant, l'Iran avait lui-même attaqué Israël. Et à ce moment-là, à la fin du mois d'octobre, Israël avait pris la décision de répliquer. On disait que l'objectif était alors d'éviter l'escalade. Les attaques israéliennes s'étaient limitées à détruire des fabrications de missiles, des systèmes aériens, des batteries de missiles. Comment vous interprétez aujourd'hui, Rina Bassis, le fait que l'offensive de la nuit dernière ait totalement changé d'ampleur, qu'on soit dans une stratégie, en tout cas en apparence, radicalement différente?
Oui, j'ai une lecture un petit peu différente sur parce qu'on a parlé de fait est-ce que vraiment l'Iran va passer cette cap à commencer justement à développer la technologie pour avoir une bombe. Et en tout cas, selon les experts israéliens avec qui j'ai parlé ces dernières années, on a d'un côté l'enrichissement. Et là, c'est quelque chose effectivement qui est assez facile à détecter parce que on peut le mesurer. On peut le mesurer et aussi il faut avoir des espaces énormes. Justement, c'était ça toute l'idée des Iraniens, qu'il faut tout enterrer très profondément. Il fallait construire des énormes salles et en profondeur à 20 mètres, à 30 mètres. Fordo, on parle même de peut-être 80 mètres. Donc, c'était des opérations énormes qu'on ne pouvait pas cacher. Le fait est, si vraiment il y avait une décision pour commencer à développer la technologie, ça c'est une autre chose qu'on peut faire dans des petites, dans un appartement, dans un petit laboratoire quelque part. Il n'y a pas cette signature de matériel qui est liée à ça. Donc, au moment où la décision est prise, si jamais, ça je ne le sais pas, si jamais il y avait une telle décision de la part de l'Iran, ça c'est quelque chose qu'on peut le faire de façon beaucoup plus discrète. Donc, je pense qu'il y avait d'abord cette crainte-là. Mais effectivement, et on est dans une situation qui est différente de la situation avant. D'abord, D'abord, les négociations. Ça c'est assez clair, mm-hmm. je pense.
Israël s'oppose aux négociations, alors.
Israël, je pense que ça c'est assez
Israël
clair.
Israël s'oppose aux négociations, Israël a toujours
en
expliqué,
tout cas,
notamment...
Israël, je vais dire Israël, le gouvernement de M. Netanyahou, bien sûr, s'oppose à ces négociations. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un secret. Monsieur Netanyahou a toujours dit qu'il voulait pas cette proposition qui est pour l'instant sur la table. Parce que c'est quoi la proposition américaine sur la table? C'est plus ou moins geler la situation tant que telle et empêcher les Iraniens d'enrichir plus qu'ils ont. Et pour l'instant, et peut-être, là, il y avait une proposition américaine, mais qui était rejetée et par cet Iran qui est soi-disant si faible, mais quand même, qui arrive à rejeter des propositions américaines pour, par exemple, déplacer les matériels déjà enrichis, ou peut-être qu'il y aura justement des matériels enrichis qui va être importé en Iran pour qu'on l'utilise pour des fins civiles. Donc, toutes ces propositions, l'Iran, pour l'instant, a rejeté. Et peut-être le gouvernement israélien avait le sentiment justement que dans ces négociations où les Américains auraient dû avoir la main forte, en fait, c'est les Iraniens qui mène la balle.
Effectivement, le Premier ministre israélien a toujours expliqué qu'il était contre les avancées du point de vue diplomatique sur ce dossier en particulier. Vous souhaitiez réagir, Antoine Baspous?
Écoutez, je crois que l'AIEA a tranché en disant que l'Iran viole les accords, l'Iran dissimule. Dans 3 sites, l'AIEA a découvert de l'uranium enrichi qui n'était pas déclaré et les Iraniens ont refusé d'expliquer comment cet uranium a été si enrichi sans avoir déclaré qu'il le faisait. Et donc hier à Vienne, il y a eu condamnation de l'Iran par les gouverneurs de l'AIEA. Et donc Israël s'est jeté sur l'occasion pour justifier l'attaque en se disant ils sont sur le point de passer à la bombe. Et à vrai dire, quand on a un programme nucléaire, enrichir au-delà de 60% tant de quantité pour fabriquer de quoi fabriquer 9 bombes ou 10 bombes, je veux dire, c'est nier le fait de chercher la bombe, c'est une stupidité. Le modèle iranien, c'est celui de la Corée du Nord. Ils pensent que pour être sanctuarisés par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis, par rapport à tous leurs adversaires, il faut qu'ils aient la bombe. Or là, ça a été coupé, cette volonté. Avant d'arriver à la bombe, ils ont été frappés.
On dit, Bernard Roucas, depuis le début de cette conversation, dans le fond, Israël a, j'allais dire, s'est adapté parce que le contexte a changé à cause des négociations qui ont débuté depuis mars dernier, parce que l'AIEA a dit hier à Vienne que l'Iran était en situation de triche diplomatique. Pourtant, il faut certainement des mois, plusieurs années pour penser, pour construire une opération comme celle qui a eu lieu la nuit dernière. Je rappelle juste un chiffre, la moitié de la flotte aérienne israélienne est partie attaquer l'Iran la nuit dernière. Il faut quand même un sacré bout de temps pour penser tout ça.
Absolument, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Les plans secrets d'Israël pour attaquer l'Iran sont publiés dans la presse internationale depuis les années 90. Donc Israël s'est préparé à attaquer l'Iran, comme d'autres pays s'il était nécessaire, l'Égypte ou la Syrie, etc. Les militaires, c'est leur job de faire cela. Il y a un plan en France pour attaquer la Belgique, si vous voulez, c'est des exercices. Donc évidemment, le plan était prévu. Ils s'étaient entraînés aussi, vous l'avez rappelé, au mois d'octobre, en envoyant également 200 avions qui ont commencé à nettoyer le terrain pour passer ensuite aux choses plus sérieuses éventuellement.
Ça, pour vous, c'était une première étape, c'était du nettoyage en amont, c'était de la préparation même, dites-vous.
Préparation éventuelle. Peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'était un moyen d'abord pour Israël de répondre à l'attaque iranienne, disant « si vous nous attaquez, nous sommes capables de répondre de façon très violente » et de détruire essentiellement les sites de missiles antimissiles, etc. Donc, Aujourd'hui, la question que je me pose, sur le nucléaire, on peut discuter. Il est clair que l'Iran a été condamné, mais ce n'est pas la première fois. L'Iran est régulièrement condamné par les gouverneurs de la IEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, parce que l'Iran a dépassé les 3,5%. Mmh. Les Iraniens disent, moi j'ai été contraint de le faire parce que les États-Unis me sanctionnent et sont sortis de l'accord. Donc, je suis menacé par les États-Unis, menacé par Israël, j'ai donc besoin d'enrichir, et pour l'instant, je ne passe pas au nucléaire militaire, mais si on me pousse, je le ferai. Ce petit jeu, on le connaît bien depuis des années. Dans ça, c'est pas nouveau. La question que je me pose aujourd'hui, c'est Israël aujourd'hui n'est pas l'Israël il y a 20 ans. Israël aujourd'hui, c'est l'Israël de Gaza et de la Palestine. C'est quand même un événement exceptionnel au niveau mondial. Et donc, vous disiez, madame, que la réunion de New York entre l'Arabie Saoudite et la France était mal ficelée ou était pas très importante. C'est possible. Mais
réunion qui aura lieu la semaine prochaine.
Oui, le 15, le 18 juin.
Je présentais les pas de vue des gouvernements israéliens.
D'accord. Mais il dit que ce n'est pas très important, mais en fait, oui. Et on sait très bien l'animosité qu'il y a, et que je peux comprendre, du gouvernement israélien vis-à-vis de la France qui envisage de reconnaître Israël, la Palestine. Donc, il y a un contexte politique très important où l'Iran a été affaibli, n'a plus la capacité de vraiment réagir. Donc, militairement, l'Iran ne pourra pas mener une guerre contre Israël, c'est évident, il n'a pas les moyens de le faire. Mais c'est politiquement, où va Israël là-dedans? C'est une guerre, certains disent, c'est pour créer le chaos. On tue des généraux, des ingénieurs, on crée une instabilité politique et l'Iran sera un pays chaotique, mal géré pendant encore quelques années, donc incapable de prendre une décision et après on verra bien. Mais en attendant, la Palestine, et j'insiste là-dessus, passe au second rang. Ce soir, nous avons fait une émission sur l'attaque et non pas sur la Palestine, qui aurait pu être programmée une autre fois. D'ailleurs, France Culture a fait des émissions là-dessus la semaine dernière.
Assez nombreuses, et on nous referons d'ailleurs la semaine prochaine plusieurs émissions sur la Palestine, mais vous faites bien de rappeler que c'est sans doute l'enjeu prioritaire. Antoine Basbous, est-ce que, effectivement, l'Iran, concrètement, stratégiquement, militairement, n'a pas les moyens de répliquer aujourd'hui ?
L'Iran, surtout, est privé d'état-major. C'est-à-dire pour organiser une réplique, ce n'est pas en nommant le jour de la décapitation de 20 généraux à la tête de l'armée, de les remplacer, que la réplique arrive aussitôt. Donc, je crois que les Iraniens doivent être sonnés, doivent être humiliés. Leurs scientifiques, leurs généraux, les plus illustres, ceux qui prenaient tous les jours lever le doigt et menacer, détruire Israël, l'effacer de la surface de la terre. Bref.
La société iranienne, pardonnez-moi, se sent humiliée aussi, ou vous parlez principalement des élites, des dirigeants?
Non, tout le monde est humilié parce que la société iranienne a eu sa fierté et elle est représentée par des gens qu'elle n'a pas voté pour eux. La société iranienne est dominée par une caste de 10 à 12%, les Bassidjs, les Pasdaran et les Mollahs. Et à chaque fois qu'il y a des élections, même en 2009, un ancien Premier ministre de Khomeini, un ancien président du Parlement de Khomeini, ont été éliminés au profit de Ahmadinejad. Et le guide de l'époque a dit « Bon, on arrête le dépouillement des urnes, c'est Ahmadinejad qui est élu. » Parce que c'est sa propre décision qu'il a imposée. Donc le peuple se soulève tous les deux ans. Rappelez-vous Mahsa Amini, quand elle a été assassinée, eh bien, il y a eu plusieurs mois de soulèvement, il y a plus de 500 morts. Un an plus tôt, il y avait également des révoltes et qui ont été très, très, très fortement matées. Donc la société iranienne n'est pas en phase avec la monarchie. Ça fait 46 ans que cette monarchie domine. Elle a promis des rêves et la réalité en Iran, c'est le cauchemar. Ce n'est
mais
pas des
Israël
rêves.
Renforce cela, excusez-moi une seconde, une incise. En faisant une attaque, Israël unifie la société iranienne. Tout le monde se sent victime de ce danger et donc on se réunit autour du chef de l'État. Pour les Mollahs, c'est du pain béni ce qui se passe actuellement avec l'attaque israélienne.
Rina Bassi, sur la société israélienne cette fois-ci, comment se prépare-t-elle? On a vu que des magasins fermaient dans les villes principales du pays. Comment se prépare-t-elle à une réplique iranienne qui pourrait arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent?
Bon, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui est dans la tête de tous les Israéliens depuis des années. Cette crainte qu'un jour, justement, il y aura la grande réplique iranienne, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle, et c'était bien expliqué par M. Barbouz, d'un régime dictatorial, Donc, sa seule objectif, c'est sa survie. Et sa survie, d'une certaine façon aussi, le projet nucléaire est lié à ça. Et c'est, ils n'ont jamais caché leur volonté d'avoir la capacité nucléaire. Et je crois que personne dans le monde occidental ou le monde libre, sans doute, qu'ils cherchent en fait des capacités militaires, et pas, on n'est pas naïve. Et ça, c'est une deuxième chose. Et ils n'ont pas caché non plus leur volonté tout simplement de détruire Israël. C'est quelque chose qui ne date pas ni de l'année passée, ni il y a 2 ans. Ça fait des années qu'ils disent ça. Donc, quand vous demandez comment la société israélienne vit ça, donc, il y a cette menace. Et donc, là, je n'entre pas si c'était une bonne ou mauvaise décision de la part du gouvernement Netanyahou. J'explique vraiment juste ce que je pense que beaucoup d'Israéliens ont craigné depuis des années, cette menace iranienne. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on parle d'une société qui est extrêmement résiliente. Et on a vu comment c'était passé, en fait, ce matin, à 2h15 le matin. Il y avait les sirènes qui ont averti. Et ça, ce n'était pas fait ni en avril ni en octobre pour avertir qu'Israël attaque. Donc, ce n'était pas encore des sirènes qui appelaient les gens de se mettre à l'abri, mais tout simplement dire aux gens « préparez-vous ». Peut-être plus tard, il y aura justement les consignes de se mettre à l'abri, ce qui est arrivé quelques heures plus tard. Mais après, quand Israël, et peut-être avec l'aide d'autres pays, a abattu, a intercepté les sondrons qui étaient lancés depuis l'Iran, et les consignes étaient de « voilà, vous pouvez sortir jusqu'au moment où il y aura encore une autre tentative de la part des Iraniens de frapper ».
L'argument évidemment de la résilience du pouvoir iranien vaut, on l'imagine, pour le gouvernement israélien qui fait aujourd'hui à peu près tout pour se maintenir également. Il y a une équivalence dans ce domaine peut-être. Bernard Wourka, du point de vue iranien, vous, est-ce que vous estimez vous-même que, j'allais dire stratégiquement, cette fois-ci militairement, est-ce que le pays a la puissance, la capacité à attaquer ?
Techniquement, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais il est évident que l'Iran n'a pas les chasseurs-bombardiers, n'a pas les moyens militaires de faire un conflit, de gérer un conflit, surtout avec une puissance comme Israël. Et donc, il y aura peut-être des missiles qui vont partir, mais ça ne pourra pas être une véritable guerre. Par contre, ce que je vois, c'est les conséquences qu'il y a en Iran sur le renforcement du nationalisme iranien. Les mollahs, l'islam politique, c'est une dramatique histoire qui est terminée. La page est difficile à tourner, elle est en train de se tourner, on le sait. Et donc, il y a en Iran une volonté ancienne et forte de défendre l'État. La politique nucléaire iranienne des religieux est celle du Shah, exactement. C'est la continuation de la politique du Shah. Autrement dit, le nationalisme iranien reste très fort. Et l'attaque israélienne, qui touche un peu tout le monde, les gens ne vont pas regretter un général qui a été assassiné, mais ils vont regretter que les voisins autour ont été tués. Mmh. Et donc, il y a actuellement un sentiment d'humiliation en Iran, un sentiment de peur, disant on va subir une guerre qui n'est pas la nôtre. Les mollahs l'ont provoqué. Israéliens jouent la carte des mollahs en nous attaquant. Et donc, on va être obligé de soutenir ces généraux que l'on n'aime pas pour qu'ils nous défendent. Hein, ils sont un peu piégés et humiliés. Et un peuple humilié est un peuple... qu'il faut plaindre et qu'il faut regarder avec attention.
Antoine Basbous, quel rôle ont joué les États-Unis dans cette affaire, dans cette opération ? Donald Trump dit ne pas avoir été impliqué directement. Il affirme en revanche avoir été prévenu en amont. Là aussi, est-ce que c'est un numéro d'équilibriste de la part du président américain ?
Je crois qu'il a fait de l'omerta en quelque sorte. Il était informé, il a évacué hier une partie du personnel d'Irak, de Bahreïn, de Koweït, personnel américain. Mais il n'a pas envoyé des aéronefs ou des missiles signés États-Unis. En revanche, les missiles qu'Israël a utilisés, les bombes perforantes, beaucoup d'armements, les avions sont fabriqués aux États-Unis.
Donc, est-ce qu'il n'a pas dans cette affaire un enjeu quasi personnel ? Est-ce que ces négociations, les négociations auxquelles il tient, qu'il a mises en œuvre lui-même à partir de mars dernier, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être remises en cause aujourd'hui à cause de cette opération ?
Je pense qu'on lui a expliqué que vous négocierez mieux avec un adversaire qui a un genou par terre. Et cette frappe va vous aider à mieux négocier, à arracher le consentement de l'Iranien. les Américains, à l'époque de la précédente administration, ne voulaient pas que Israël attaque. Et là, Trump, lui, avait déjà assassiné Soleimani en 2020. Là, il a dépêché le tiers de la flotte stratégique à Diego Garcia, deux porte-avions, plus les bases dans la région. Donc les Iraniens sont piégés. Ils avaient menacé d'attaquer les États-Unis, mais s'ils attaquent les États-Unis, eh bien, il y a une armada américaine qui va les démolir. En même temps, ils seraient peut-être tentés de lancer des attaques contre leurs voisins arabes, pour dire comme ça, en élargissant le conflit, on va réduire sa durée. Et là, les monarchies du Golfe ont toutes, d'un côté, dénoncé cette attaque, mais en même temps, ils ont participé à la riposte. Je crois que les satellites américains, que les bases américaines dans la région, ont surveillé et aidé Israël sans intervenir.
Rina Bassis, comment vous analysez, interprétez vous-même ce rôle américain dans cette opération ?
Non, je vais plutôt, je pense, dans la même direction. C'est vrai que la politique de M. Trump ces derniers jours n'était pas vraiment cohérente parce qu'il y avait un moment, d'abord, il a dit qu'il n'était pas très optimiste, qu'il y aura vraiment un accord. Et après, il a dit, mais non, mais je parlais avec M. Netanyahu, je lui dis qu'il ne faut pas attaquer. Donc, il y avait des allées et des retours. Là, sur ses dernières réactions, d'abord, il a dit excellente opération. Il a félicité Israël pour cette manœuvre. Mais il a aussi dit aux Iraniens, écoutez, moi, je vous ai donné 60 jours pour arriver à un accord. On est à la jour de 61. Donc là, vous n'avez pas respecté les délais que je vous ai présentés. Et ça veut dire que vous ne voulez pas un accord. Mais quand même, je suis d'accord de continuer à parler avec vous. Et donc, si on prend ça comme la dernière ligne de sa politique, parce que ça peut aussi changer. Et demain ou après-demain, on connaît bien les personnages. Si ça ne va pas changer, on est effectivement dans une situation où M. Trump s'est dit « Bon, je laissais Israël faire son manœuvre. Maintenant, je vais utiliser ça comme un levier de forcer les Iraniens à accepter ce qu'ils n'ont pas peut-être accepté avant. »
Bernard Ourcade, de côté européen, cette fois-ci, il y a un élément de langage qui frappe dans les différentes chancelleries. Je pense notamment à la France, à l'Allemagne. Chacune d'entre elles a mis en avant le droit d'Israël à se défendre, alors que c'est Israël qui mène une opération. Comment comprendre, là aussi, cet élément de langage pour
Je ne suis pas très féru en surréalisme, mais effectivement, on était stupéfait de cette réaction. La défense d'Israël est évidente. Bon, personne ne veut attaquer un autre pays, mais ce qui se passe est d'une autre nature. Et donc, je pense que les Européens se sont mis un peu à côté du débat. Les Américains et les Iraniens négociaient. Les Européens ne voulaient pas négocier, au contraire, essayant de contraindre l'Iran encore un peu plus. Donc, il y a un éclatement. Mais pour Trump, pour en revenir à lui, c'est un homme qui fait de l'argent. Quel est le pays de la région qui a 92 millions d'habitants, qui ont passé l'épreuve de l'islam politique, qui sont les plus éduqués, qui ont du pétrole et du gaz à ne savoir qu'en faire, qui est bien administré et contrôlé? C'est l'Iran. C'est pas Qatar, c'est pas Bahreïn. Autrement dit, il y a du blé à faire en Iran. Et pour Trump, c'est important. Ils savent aussi que l'Iran est un gros pays dans la région. On ne peut pas passer au-dessus comme la Turquie ou l'Égypte. Ce sont des pays avec lesquels il faut compter. Et ce que je regrette surtout, je regarde aujourd'hui, c'est la réaction des pays voisins. L'Arabie saoudite a regretté d'une attaque contre le pays frère. Pour que l'Arabie utilise le mot frère concernant l'Iran, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'important. La Turquie, pareil.
Et elle était parmi les premières à réagir.
Les autres, les Émirats, un peu moins. Mais on voit que les pays voisins se disent, si dans l'avenir, les accords d'Abraham, qui devaient permettre la pacification de la région avec Israël, c'est pour mettre au pouvoir un Israël qui a une capacité de pouvoir attaquer n'importe qui sans prévenir sur des soupçons de menaces éventuelles, qu'est-ce que ça va donner ? Moi, Arabie Saoudite, qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui, ça va bien. Dans quelques années, qu'est-ce que ça va être ? Et donc, Israël risque d'être bloqué sur le plan politique dans la région, comme il est sur l'époque de Gaza. Et je crois que cet événement, aujourd'hui, si on le voit en termes politiques, risque d'isoler Israël dans sa région. Les gens qui voulaient signer un accord d'Abraham ne peuvent plus le signer pour des raisons politiques. Et comme ils ne pouvaient plus déjà le signer à cause de ce qui se passe à Gaza, en raison de la pression populaire à la base. Et donc, Israël, c'est peut-être gagner une victoire à la Pyrrhus. Victoire militaire, mais une victoire qui est une défaite politique. Et c'est dangereux pour Israël.
Antoine Basbous, en quelques mots, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission, est-ce que vous partagez vous-même cette analyse-là? Dans le fond, Israël est en train de s'isoler peu à peu, notamment quand on regarde, la rapidité de la réaction saoudienne.
Je crois que celui qui était isolé ces derniers temps, c'était l'Iran. Oui. Parce que l'Iran avait contrôlé 5 capitales arabes, il les a revendiquées, et puis les unes après les autres sont tombées. Et donc, de ce fait, les pays comme l'Arabie, qui a subi plein de missiles venant d'un proxy de l'Iran au Yémen et d'Irak, serait soulagé si l'Iran est réduit, à condition que ce ne soit pas une guerre d'usure et qu'il va le toucher. Donc d'un côté, il intercepte les drones et de l'autre, il condamne l'agression israélienne. Donc voilà la diplomatie un peu schizophrénique.
Merci beaucoup à tous les trois de cette analyse sur l'actualité brûlante. Rina Bassiste, Bernard Ourcade, Antoine Basbous. Et il y aura la semaine prochaine sur France Culture dans diverses chaînes et dans Questions du soir, des émissions consacrées à la Palestine. Merci à toutes et à tous.
Vous êtes bien sur France Culture. On a besoin de vous, nous allons sauver nos paysages, ceux qui disparaîtront peut-être dans quelques décennies. Expérience Aurélie Charon. Enregistrez-vous en message vocal, choisissez un lieu bien précis qui vous est cher, décrivez tous les détails que vous voyez, laissez libre cours à vos pensées et dites-nous où se situe le lieu, votre nom, votre prénom. Envoyez-nous le message vocal au 06 01 01 33 53.
Restez à l'écoute de France Culture. Juste après le journal, on va changer radicalement de